à tous. Troisième grande table de la semaine avec une conteuse de l'Algérie d'aujourd'hui et une juriste qui regarde la démocratie. Quand le peuple et la jeunesse reprennent le pouvoir, c'est jusqu'à midi et demi avec la romancière Kawther Adimi. Après Nos richesses l'an passé, hymne à la littérature, elle publie Les Petits de décembre au Seuil, une ode à la jeunesse. Celle qui s'est dressée un jour de 2016 contre des généraux pour défendre son terrain de foot, promis à des promoteurs immobiliers. Un geste annonciateur, peut-être, de la révolte algérienne actuelle. À partir de 12h55, rendez-vous avec l'auteur de Régression de la démocratie et déchaînement de la violence, un court essai où la juriste Monique Chemier-Gendreau dresse les plans d'une nouvelle architecture mondiale pour une société plus juste. Voilà le programme de votre grande table. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Des dizaines d'enfants peuvent-ils lutter contre tout un système ? Bonjour Kawther Adimi.
Bonjour.
Les Petits de décembre, c'est votre quatrième roman, ancré une fois encore dans votre pays natal, l'Algérie. Aujourd'hui, vous avez 33 ans. Jamil, Madi et Inès, ils ont 11 ans dans ce roman. Pourquoi cette bande d'enfants qui jouent sur le terrain de foot de la cité du 11 décembre, à Deli Ibrahim, près d'Alger, pourquoi et comment sont-ils devenus un peu aussi vos petits ?
Alors Inès, Jamil et Mehdi sont des enfants que j'ai un peu rencontrés. En tout cas, ils n'existent pas en tant que tels, mais ce sont les enfants de Deli Ibrahim où j'ai vécu pendant plusieurs années. Et au centre de la cité du 11 décembre, il y avait un terrain de football où pendant une vingtaine d'années, les enfants, dont mes frères, jouaient au football là-bas. Et en 2016, ce terrain a été cédé à des généraux qui ont construit leur villa. Et ça a été le point de départ de cette histoire. J'ai imaginé trois personnages, trois enfants, Inès, Jamil et Mehdi. J'ai imaginé une révolte qui partait de ce fait divers et qui prenait une ampleur considérable dans le roman et qui devenait un espèce de dernier match joué par des enfants contre des généraux et qui jouaient le match de leur vie pour essayer de conserver leur terrain de football. Et j'ai voulu incarner des personnages aussi jeunes, des enfants, parce que ils mettent à mal tout le système des généraux ces généraux ne savent pas du tout comment réagir face à des enfants, puisque les enfants n'ont pas peur ni du chantage, ni de menaces, ils n'ont rien à perdre, et donc toutes les armes habituelles du pouvoir ne peuvent rien face à ces enfants.
En faisant barrage aux généraux Atman et Saïd dans le livre qui viennent annoncer leur volonté de faire construire des villas de luxe sur ce terrain de foot, sur ce terrain vague devenu terrain de foot, les jeunes de la cité commettent vraiment un acte de bravoure, hein, parce qu'il en faut du courage. C'est assez téméraire en Algérie aujourd'hui encore quand même pour s'opposer à des généraux.
Oui, en 2016, j'étais à Alger et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de mini-révolte de jeunes face à des généraux, à Deli Ibrahim. Et justement, je me suis dit, il se passe quelque chose. J'ai pensé que cet acte, qui paraît assez effectivement minime, qui a été relayé un petit peu dans la presse comme un fait divers, des jeunes se sont battus contre des généraux. Moi, il m'a paru incroyable. Je me suis dit, c'est la fin d'un cycle et c'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a une révolte qui se prépare, parce que si des jeunes osent s'attaquer à des généraux pour dire non, ici c'est chez nous et vous n'avez pas le droit et stop, ça suffit, c'est que quelque chose de différent est en train de se passer. Et j'ai eu envie de raconter ça, d'imaginer une révolte populaire, quelque chose qui prendrait une dimension complètement folle et de parler de ça, de cette peur du pouvoir qui finalement allait voler en éclats parce que justement était incarnée par des enfants et des jeunes qui disaient mais nous on s'en fiche, vous n'avez pas le droit, c'est injuste et l'injustice est complètement impossible à expliquer à un enfant. Et c'est pour ça que le roman se passe à hauteur d'enfant.
Parce que vous le racontez, parce que vous l'écrivez sans prendre à des généraux, c'est pas simplement ça, s'en prendre à des représentants de l'ordre, c'est s'en prendre à l'État, en fait.
Oui, c'est s'en prendre à l'État, parce que les généraux, dans le roman, ont accès à l'État. Ils ont tous les moyens de l'État et tout le pouvoir possible et inimaginable. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le roman se construit, c'est cette opposition entre un pouvoir immense, celui des généraux et de tout un État, de tout un pouvoir, face à celui qui paraît minime de 3 enfants, mais qui va se révéler incroyable, parce que le pouvoir des généraux, aussi grand soit-il, il ne peut rien contre la volonté d'enfants et de jeunes. Mais c'est vrai que, vous savez, il y a une anecdote qui est souvent racontée, c'est la mafia italienne envoie un émissaire en Algérie en disant j'en ai marre, on parle toujours de la mafia algérienne, je veux comprendre qu'est-ce que la mafia algérienne. L'émissaire revient au bout de quelques semaines et dit non mais vous vous rendez pas compte, eux ils ont tout, ils ont un état, ils ont une police, ils ont des ministères, tout est une mafia. Et c'est un peu ce que j'ai eu envie de raconter aussi dans mon roman, c'est qu'est-ce que la vie de militaire, comment ça se construit, que ce pouvoir, comment la peur aussi est complètement distillée. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des adultes dans ce roman qui sont les grands, les parents des enfants qui, eux, sont complètement résignés, ont extrêmement peur, ne veulent pas d'ailleurs, n'aident pas leurs propres enfants, n'aident pas les jeunes, ni les petits, se tiennent extrêmement à l'écart et voient plutôt, essayent plutôt, leur lutte est extrêmement tiède. Ils parlent beaucoup d'alternance, il faut discuter, il faut discuter avec les généraux, on va peut-être trouver une solution, là où les enfants et les jeunes ont atteint un point de non-retour et refusent tout dialogue.
Voilà, alors il y avait ce frémissement que vous avez perçu en 2016 et qui était peut-être annonciateur de ce qui est arrivé ensuite. Cette suite, on la connaît depuis le début de l'année. Ce sont des manifestations, des défilés dans toutes les rues d'Alger, mais aussi dans le reste du pays. Il y a un autre point commun entre ces petits de décembre, pour reprendre le titre de vos romans, Kauter Hatimi, et les manifestants et les manifestations d'Alger cette année. C'est peut-être ça. Le point commun, c'est cette petite chanson, c'est le foot, c'est la Casa del Mouradia, ce chant des supporters algérois qui a résonné dans les rues d'Alger au cœur des défilés et qui dénonce la corruption au sommet de l'État, l'arbitraire à travers un inventaire des différents mandats de Bouteflika. Le foot, alors là, c'est pas les lieux du stade dans votre roman, c'est des gamins qui jouent et des filles aussi sur un terrain vague, mais il y a quelque chose que vous comprenez dans ce sport qui a pu à un moment fédérer, qui a permis aussi autour de cette pratique de fédérer des groupes et permettre à une voix de s'élever.
Le football en Algérie, c'est politique, c'est amoureux, c'est tout ce que vous voulez. Il y a une histoire du football algérien qui est assez fascinante. Enfin, quand on sait comment a été construite la première équipe de football algérien, donc l'équipe du FLN avant l'indépendance du pays, ces joueurs qui quittent la France secrètement, qui vont constituer la première équipe de football, on sait qu'on a un point de départ qui est romanesque, qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a plusieurs matchs mythiques en Algérie. La première fois que la première équipe africaine qui se qualifie en Coupe du Monde, c'est l'Algérie face à l'Allemagne. Et ensuite, dans les années 80, il y a le match Allemagne-Autriche, qui est le match de la honte. C'est-à-dire qu'en Algérie, vraiment, on a des matchs qui sont mythiques. Vous trouverez toujours quelqu'un, je dis toujours, vous trouverez toujours quelqu'un dans un café avec qui dire du mal de l'Allemagne ou de l'Autriche, avec qui discuter de tous les grands matchs de l'Algérie. Et donc oui, le football, c'est quelque chose très ancré dans les communautés, dans les villes, etc. Même s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les stades, on voit quand même ces dernières années que c'est un sport qui intéresse, qui va au-delà d'intéresser uniquement les hommes. La qualification à la CAN, puis le fait que l'Algérie ait gagné il y a quelques mois la CAN, ça générait une émotion qui était extraordinaire et qui était complètement en lien avec toutes les manifestations de ces derniers mois. Alors c'est vrai que moi j'utilise ça, cette émotion, cette énergie, ce que peut générer ce sport, qui est un sport collectif, dans mon roman.
Et aussi presque cette allégorie, parce qu'on voit qu'il y a deux Algéries, l'Algérie des stades et des terrains vagues, celle de cette jeunesse-là, et l'Algérie des villas de luxe, celle de l'État, des généraux, lesquels ils veulent remplacer d'ailleurs ce projet immobilier qu'ils veulent construire sur le stade.
Et les généraux ne se rendent pas compte dans le roman au début qu'ils prennent un stade. Parce que pour eux, c'est un terrain vague. Et oui, il y a des enfants qui jouent, mais enfin, on s'en fiche, ils iront jouer ailleurs. Pour les enfants, c'est un lieu vraiment un lieu extrêmement important, un lieu collectif. Ça fait 20 ans que les enfants y jouent. Il y a eu des générations d'enfants qui jouent là-dessus. Tous les enfants du quartier y jouent. Et moi, je l'ai construit comme un match de football. C'est-à-dire, tout le roman est un match entre les généraux et les enfants. Et le terrain devient un lieu sacré. Parce que les adultes n'osent plus monter sur le terrain. Dès lors que les enfants ont décidé de lutter et de s'accaparer ce terrain, et dès lors qu'ils ont décidé de ne plus sortir du terrain, alors même qu'il n'y a pas de grille, qu'il n'y a pas de porte, que rien ne les empêche, les adultes n'osent plus s'approcher du terrain. Ils en ont peur, c'est devenu un lieu gardé par les enfants et plus personne ne peut monter dessus.
Quel regard, vous, la romancière de 30 ans, 33 précisément, vous portez sur cette génération, celle des petits de décembre jusqu'à 20 ans, celle qui s'est aussi opposée à un nouveau mandat de Bouteflika, celle qui appelle aujourd'hui au changement dans la rue?
Je pense que c'est une génération qui n'a pas peur, c'est une génération qui est née à la fin des années 90, à la fin du terrorisme. Et là où peut-être ma génération, dans les années 2000, avait besoin d'un temps de reconstruction, avait besoin de faire presque un deuil de notre jeunesse, de ce qu'a été une jeunesse rythmée par les bombes, eux ont grandi sans cette peur-là, ou ont grandi avec une envie d'exister immédiatement. Et je pense que ça se voit beaucoup dans les manifestations, ça se voit beaucoup dans les rues. Mais après, les manifestations vraiment sont aujourd'hui portées...
Transgénérationnelles.
Ouais, c'est ça, elles sont portées par toutes les générations. Il y a des personnes extrêmement âgées dans les rues, il y a des tout-petits...
Il y a leur génération, il y a votre génération, et puis il y a celle des parents, et il y en a peut-être même encore une aujourd'hui présente sur cette scène en ébullition. On ne peut pas manquer d'y voir, dans votre roman, mais aussi dans ce qui se joue actuellement en Algérie, quelques ressemblances avec les événements de la place Tahrir, avec l'Égypte. À la rentrée dernière, c'est l'écrivain égyptien Alaa El Aswany qui nous livrait le roman de cette jeunesse qui a dit non.
Je pense que on a eu une génération en Égypte qui a eu une conscience très différente. Et c'est grâce à cette génération que la révolution a été possible à un moment donné. Et on voit ça jusqu'à maintenant. J'ose dire, chaque famille en Égypte, il y a deux opinions, l'opinion des jeunes et l'opinion des parents. En Égypte, c'était toujours comme ça, comme dans tous les pays. Il y avait les gens, surtout les gens plus âgés, ils se sont adaptés à la dictature. Ce sont les jeunes qui ont eu une nouvelle conscience. Quand vous vivez 40 ans ou 50 ans sous une dictature, et vous faites votre vie, vous gagnez votre vie, vous élevez vos enfants. Alors, quand votre fils vient se révolter parce que il veut vraiment des élections justes, vous ne serez pas capable de comprendre. Vous voyez, parce que vous vous êtes adapté, c'était toujours comme ça.
Alaa El Aswany, auteur de J'ai couru vers le Nil, paru à la rentrée dernière chez Actes Sud, Kauter Adimi. Parfois aussi, cette révolte se fait contre les parents. On le voit dans votre roman, c'est à l'image de Youssef et de son père Mohamed dans le roman. Beaucoup de familles ont été divisées en Algérie aussi, depuis que la rue a pris la parole.
Oui, alors je crois que globalement quand même, tout le monde a envie de sortir et que tout le monde a envie de s'opposer à part quelques exceptions près, qui sont ceux qui font partie du pouvoir et qui n'ont pas envie que ce système change. Sinon, je pense que globalement, quand même, dans les familles, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un changement. Ensuite, comment ce changement doit avoir lieu, c'est là où peut-être les choses divergent. On le voit en ce moment, hein, il y en a qui veulent des élections rapidement, il y en a qui veulent un changement de constitution, il y en a qui veulent un changement radical et absolu. C'est là où peut-être que les générations ne veulent pas la même chose. Et dans mon roman, au-delà d'une lutte entre enfants et généraux, il y a aussi toute une partie du roman, c'est l'impossible dialogue entre les petits et leurs parents. Et vraiment, de manière assez marquée, les enfants d'ailleurs ne parlent quasiment jamais à leurs parents dans le roman. Il n'y a plus de discussion possible. Les parents sont tièdes, ils veulent une révolte mesurée, et puis surtout, ils considèrent que c'est eux qui doivent la porter, et sûrement pas des enfants et des jeunes.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont résignés, parce qu'ils ont dû renoncer.
Parce qu'ils considèrent c'est leur moment, et que leur moment n'est jamais arrivé, qu'ils sont nés juste avant l'indépendance, pendant le terrorisme, on leur dit c'est absolument pas le moment. Ils considèrent que ça n'a jamais été leur moment. Il est hors de question qu'aujourd'hui des enfants ou des jeunes confisquent ce moment-là. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut voir aujourd'hui. D'ailleurs, à un moment donné, on a fait une liste de personnes en Algérie, des sages, pour discuter pour créer un espèce de panel, etc. On voit bien que la jeunesse est complètement absente. Certaines personnes proposées avaient plus de 90 ans, et on voit aussi que dans la rue rejette ces personnes-là, non pas parce que ce ne sont pas des sages ou qu'ils ne sont pas intéressants, etc., mais en disant, en fait, il est temps que nous aussi, on ait la parole et qu'on puisse parler.
Et puis, il y a une troisième ou quatrième génération présente dans le roman à laquelle appartient Adila. Adila, c'est une ancienne Moudjahida, présidente d'une association d'aide aux femmes victimes des violences familiales. Et vous écrivez, il faudrait réussir à raconter toutes les vilaines histoires, celles dont on a si peu envie de se souvenir, celles qu'on a voulu enterrer au plus profond de soi. Il faudrait oublier la pudeur, montrer les cicatrices toujours là sur le dos que peu de gens ont vues, les écrire, ces mots si difficiles, torture, guerre, indépendance. Est-ce que vous diriez, comme le photographe Léo Fabrizio, qui co-signe un ouvrage de photos sur l'architecte Fernand Pouillon, dont on va reparler, et sur ce qu'il a bâti en Algérie. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'Algérie est un pays comme convalescent de sa propre histoire ?
Je pense que c'est un pays qui a peut-être été convalescent à un moment donné, mais qui aujourd'hui s'est levé et est sorti et est en train de courir et essaye coûte que coûte de ne surtout pas retomber malade. Je pense qu'on est, les Algériens sont extrêmement curieux de l'histoire de l'Algérie, et pas l'histoire juste officielle, pas celle extrêmement lisse, mais qui sont extrêmement intéressés de connaître les petites histoires. Donc, quand j'ai écrit Nos richesses, j'ai eu énormément de courriers, énormément de questions sur cette période-là, sur ce qui était de Montcharlot. Beaucoup de gens m'envoient des messages.
Ce libraire, éditeur,
d'Alger. Dans la librairie, toujours là. Beaucoup de gens passent voir la librairie, etc. Les gens sont extrêmement curieux de comprendre l'histoire passée, l'histoire contemporaine de ce pays-là. Je crois qu'on n'est plus du tout dans une idée de convalescence. Les gens sont en train de courir. Il faudrait simplement, et c'est un peu je crois que tout le monde a un peu peur de ça. On a simplement peur d'être stoppé en pleine course. Mais j'ai bon espoir. C'est une révolte qui a déjà eu lieu en 88. Il y a déjà eu une grande révolte dans les années 80 en Algérie, des manifestations, etc. Elles ont donné naissance à une liberté de presse, à une presse plurielle, à des partis politiques extrêmement différents, mais elles ont aussi donné naissance à 10 ans de terrorisme. Et c'est ça, on l'a tous en mémoire, et tout le monde veille à ne pas aller sur ce chemin-là. C'est pour ça aussi que les manifestations se font vraiment dans le calme. Il y a beaucoup d'appels au calme, à paix. Les gens sont extrêmement organisés. Il y a des personnes qui font barrage dans les manifestations. Les rues sont extrêmement propres après chaque manifestation. L'idée, c'est de faire des grandes manifestations, mais qu'il n'y ait jamais de dérapage.
On retourne avec vous, Kaouter Adimi, si vous le voulez bien, aux côtés des petits des décembre, des petits de la cité du 11 décembre. Extrait de votre roman qui vient de paraître au Seuil.
Ils arrivent à l'entrée de la cité du 11 décembre, dévalent la pente qui mène au cœur des maisons, faisant attention aux voitures qui la remontent. Arrivés devant le terrain, ils découvrent des adultes en train de vociférer et de gesticuler. Youssef hurle pendant que des gendarmes tentent de les calmer. Adila, la grand-mère d'Inès, essaye de frapper deux hommes avec sa canne, empêchée par Mohamed et Chérif qui se sont mis entre elle et les généraux. Ils s'approchent du terrain mais n'osent pas trop avancer. La folle aux cheveux rouges les rejoint et ricane, laissant apparaître sa bouche édentée. « Les enfants, connaissez-vous l'histoire de l'âne d'El-Hakim ?» Inès, Jamil et Mehdi secouent la tête. La folle reprend. « Non ? Eh bien écoutez, c'est l'histoire d'un âne qui quitte sa campagne pour se rendre dans la capitale. Il se trouve dans le centre-ville lorsqu'un gendarme l'arrête et lui demande ce qu'il fiche ici. L'âne lui dit « J'ai fait ce long chemin pour passer à la radio. » Le gendarme rétorque. « Comment ça, tu veux passer à la radio ? Mais il n'y a pas de place pour toi là-bas. » L'âne blessé lui répond. « Pourquoi moi je n'y serais pas le bienvenu alors que toute la journée des ânes y parlent ?» Les enfants éclatent de rire. Contente, la folle aux cheveux rouges leur adresse un baiser de la main et retourne sur le terrain en gambadant dans sa robe jaune.
De Amadjar, le nouvel album des Touaregs de Tina Riwen, bientôt dans les bacs qu'on avait envie de vous faire entendre. Ici, en duo avec l'américain Cass McCombs, ils seront en concert Tina Riwen au Casino de Paris. Ce sera le 23 octobre. Pour l'heure, vous écoutez France Culture et on est avec la romancière Kaouter Hadimi.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
L'architecte Fernand Pouillon et l'Algérie bâtir à hauteur d'homme. Les photographies de Daphné Bengoa et d'Eléo Fabrizio sont à voir en ce moment encore à l'abbaye de Montmajour dans le cadre des 50e rencontres d'Arles jusqu'au 22 septembre. Des photos réunies avec un texte de vous, Kaouter Hadimi, dans un beau livre paru aux éditions Macula. Il voulait imposer une forme d'architecture humaine et généreuse, remettre l'homme au centre. Fernand Pouillon, un architecte du 20e siècle, c'est sa part algérienne que ces photos racontent, retour notamment en 1955, dans cette décennie-là, en tout cas avec l'inauguration de diversité, on va écouter la voix de cet homme qui non seulement pratiquait, mais avait aussi théorisé son architecture.
Mon ambition, elle est démesurée. C'est-à-dire, mon ambition, c'est le bien de l'humanité. Alors, le bien de l'humanité par le problème de l'architecture. Alors, elle est démesurée, elle est inatteignable. Je vise les étoiles. Et je cherche les étoiles, je chercherai continuellement les étoiles en voulant le bonheur des hommes par l'architecture. Je pense que c'est un élément de bonheur très important. Et par l'architecture, par les formes, par le prix, par l'économie de l'architecture, je pense qu'on peut arriver au bonheur. J'ai rendu des gens heureux, je le sais. Et mon ambition donc est démesurée puisqu'elle désire que poursuivre cette idée-là.
Voilà, on voit dans l'exposition de nombreux lieux pensés par Pouillon, mort en 86, des lieux de vie comme la cité des 200 colonnes, rebaptisée Climat de France, la cité aussi du bonheur à Diarès-Sada ou encore la cité de la promesse, mais aussi des cités universitaires et des grands complexes hôteliers, des hôtels de villages de vacances et des caravanserails. Il avait réalisé beaucoup de choses là-bas. Votre cité à vous, Kaouter Hadimi, celle du roman, elle n'a pas été designée, pensée par Fernand Pouillon. Mais vous avez pu voir ce qu'il avait réalisé.
Oui, on le voit assez facilement. Hein.
Il a marqué
fait,
le paysage.
Il a fait énormément de choses, en tout cas à Alger et autour d'Alger, dans les cités balnéaires. Autour d'Alger, il a fait énormément de choses. Les cités que vous venez de citer, on les voit assez facilement à Alger, oui. Et donc Daphné Ben Goa m'avait proposé de participer à ce grand projet. Ça a été un énorme projet hein, de photographie et d'écrire un texte. Hein. Alors je lui ai dit, mais moi je n'y connais rien en architecture. Elle m'a dit, tant mieux, moi je veux un texte de fiction. Je ne veux pas un texte sur l'architecte en lui-même, je veux vraiment un texte de fiction. Et donc
vous faites dialoguer le père.
Je fais dialoguer le père et la mère d'une famille qui habite dans une des cités, dans une cité insalubre, dans une cité où ils sont nombreux à vivre dans un tout petit appartement. Je n'ose même pas utiliser le terme appartement, à vrai dire. Et c'est vrai que j'avais eu plusieurs fois l'occasion de rendre visite à une famille dans une de ces cités, et je m'en suis inspirée pour raconter un quotidien. Le quotidien de cette famille-là sur quelques pages, et ça se conclut avec un petit texte sur les pierres, puisque les pierres de la cité arrivaient de France, elles arrivaient même de Provence.
Voilà, il avait pensé, Fernand Pouillon, le dedans, le dehors, et c'est vraiment exactement. Passionnant à voir aussi comment ces lieux ont évolué, beaucoup se sont aussi dépréciés, n'ont pas été entretenus, ouais. Et sont aujourd'hui des cités fantômes. Oui. Habiter, c'est avant tout être de quelque part, disent les deux photographes, en hommage à Fernand Pouillon. Est-ce que vous diriez qu'il y a des similitudes réelles entre le travail de l'écrivain et celui de l'architecte? Habiter par les mots, est-ce que l'écriture à vous, elle vous permet d'être quelqu'un d'autre ou d'être de quelque part?
Je crois que oui, il y a des similitudes. On n'utilise pas les mêmes matériaux, mais sinon, on est dans une création, on est dans le sentiment, on est dans l'affection, on est dans l'envie vraiment d'atteindre un but qui parfois dépasse totalement et l'architecte et l'écrivain. Moi, les mots ont toujours fait partie de ma vie depuis toute petite, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture, ils m'ont accompagné, ils ont été mes meilleurs amis, parfois ils ont été mes seuls amis. Aujourd'hui, c'est quasiment ma maison, mes livres, voilà, mes livres sont quasiment des enfants pour moi. Je pense que j'écrirai toujours, je ne sais pas s'il y aura toujours quelqu'un qui aura envie de me publier, quelqu'un qui aura envie de me lire, mais j'écrirai toujours. Et ils me permettent, oui, d'emporter quelque chose avec moi. Mon premier roman, je l'ai écrit parce que c'était ma dernière année à Alger, je comptais partir à l'époque à j'arrivais à Paris, et avant de partir, je voulais prendre une photo d'Alger. Et c'était la fin du terrorisme, c'était quelques mois après les derniers attentats d'Alger. Et de manière assez confuse, on savait que c'était les derniers attentats d'Alger. On avait un peu l'impression d'un monstre, c'était les derniers soubresauts d'un monstre qui s'agitait. Moi, c'est vraiment l'image que j'en avais, et je voulais une photo de cette ville qui était en train de terminer un chapitre et qui allait en commencer un autre. Et j'ai raconté ça, cette histoire-là, cette famille-là qui vivait dans l'Alger des années 2000. Et je voulais emporter ça. C'est presque un cadeau que je me faisais à moi de raconter mes derniers mois à Alger. Alors pas moi en tant qu'individu, il faut toujours faire attention quand on dit, quand on utilise le moi, le jeu en écrivant, c'est pas ma vie, mon histoire, mais c'était vraiment la vie d'Alger. Et c'est un peu ce que me permet, oui, l'écriture aujourd'hui, d'inventer, d'imaginer quelque chose de ressenti, de vécu, d'emporter avec moi des choses.
Voilà. Merci beaucoup à vous, Kaoutère Adimi. Les Petites Décembre, votre quatrième roman vient de paraître au Seuil. Fernand Pouillon et l'Algérie, bâtir à hauteur d'homme, exposition à voir à l'abbaye de Montmajour près de Arles, et des photographies signées Daphné Ben Goa et Léo Fabrizio, édité donc dans ce beau livre paru aux éditions Macula.